La suite s'annonce toujours aussi captivante avec des extraits des plaidoiries sur les conséquences sociales et environnementales de l'exploitation des ressources faites par nos lycéens.
Dans le système judiciaire,
les jeunes de Coutances
sont membres d'une unité d'élite appelée unité spéciale pour les crimes particulièrement monstrueux. Voici leurs histoires.
Combien d'hectares brûlés? Combien de populations déplacées? Combien d'animaux morts dans les flammes? Peut-être qu'en tant qu'Européens, vous pensez que cela ne vous affecte pas, mais évidemment que cela vous concerne. Ces feux de forêt ont un impact direct sur nos modes de vie et sur notre futur. Oui, le nôtre, parce que c'est vous qui allez nous laisser un monde détruit et anéanti. 11 088 km² de forêts tropicales ont été rasées au Brésil en 12 mois, durant la période allant d'août 2019 à juillet 2020, soit la superficie de la région d'Île-de-France, selon les données de l'Institut national des recherches spatiales. La déforestation est une atteinte au droit à un environnement sain des populations locales et met en péril les espèces animales et végétales vivant sur ces territoires.
On néglige trop ce massacre de la biodiversité parce que l'Amérique du Sud est bien plus pauvre que la plupart de nos pays d'Europe. Imaginez, la France est dans le cas de la Bolivie, du Brésil ou même de l'Équateur. Le gouvernement demande de l'aide internationale. Très bien, il la reçoit. Assez rapidement d'ailleurs. Et le monde se décarcasse pour permettre à monsieur et mesdames, les Européens et les Français, de survivre.
Prenez aussi l'exemple des incendies au Portugal et en Espagne, durant les étés 2023 et 2024. Ces événements sont passés dans les médias. Les pays du monde entier accouraient pour leur porter secours et ainsi sauver ces 500 000 hectares. Conclusion à tout ça, ce sont des pays développés. L'environnement concerne toutes les populations et les dirigeants de celles-ci ne sont pas capables de passer outre leurs propres idées, sentiments ou aspirations personnelles pour soutenir les communautés et aider à rebâtir un monde décent. La Charte de l'environnement de 2005 précise d'ailleurs dans son article 1er « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et favorable à la santé ». Ça me paraît assez clair, n'est-ce pas? Arrêtons de fermer les yeux sur ce qui se passe et agissons. Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement, comme le stipule l'article 2 de cette même charte. On ne vous demande pas un effort surhumain, alors qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous pour aider, épauler et protéger le reste du monde?
La pollution cause une mortalité très massive. Elle touche des animaux en voie de disparition, comme le poisson lune, l'espadon, la raie manta, la baleine bleue, dont 70% environ se sont éteintes en l'espace de seulement une dizaine d'années. Le requin blanc, qui lui a vu 80% de ses camarades disparaître en 15 ans. Le requin baleine, le flétan, la tortue lutte, le requin marteau, 83% et plein d'autres encore. Il y a aussi une eutrophisation des milieux, des effets toxiques à plus ou moins long terme, des maladies ou des perturbations endocriniennes. Environ 15 tonnes de déchets plastiques sont déversées dans les océans. C'est beaucoup trop, mais les pires polluants restent les mégots de cigarettes et les chewing-gums. Il y a des poubelles partout, évitez de les jeter dans la mer ou même ailleurs. Mettez-vous à leur place et voyez ce qu'ils endurent. Aimeriez-vous être en train de suffoquer dans un plastique, de mourir petit à petit? Non, personne ne veut survivre ça. Alors arrêtez de jeter n'importe quoi dans vos océans. Savez-vous que 1,5 million d'animaux marins meurent chaque année, soit en s'étranglant, soit étouffés, soit mortellement blessés ou bien affamés? 88% de la surface des océans est polluée. C'est affreux. Aux USA, ce sont les pires. 38 millions de tonnes plastiques chaque année. En Grande-Bretagne, c'est environ 1,7 million de tonnes par an.
Le GIEC, groupe international d'experts sur l'évolution du climat, est l'organisme qui donne des prévisions basées sur l'évolution des événements climatiques. Ces derniers ont notamment créé plusieurs scénarios en fonction des actions prises et des émissions produites. Ceux-ci sont les chiffres de 2014. Le scénario RCP 2.6 demande pour être atteint des émissions inférieures à 20% par rapport à celles de 2010. Et pour 2075, aucune émission nette, voulant dire que nous aurions capté la grande majorité des gaz à effet de serre ne laissant que les parts résiduelles. Si ce scénario vient à se réaliser, la température mondiale serait augmentée de 1,5 degrés Celsius par rapport à la période pré-industrielle. Ce scénario aurait été le plus préférable, mais n'est malheureusement plus atteignable avec la situation actuelle. Le scénario RCP 4.5 est atteint si les émissions actuelles restent similaires aux émissions de 2022, et que par 2100, nous ayons réduit de 40% les émissions par rapport à 2010. La température mondiale serait dans ce cas de 2,6 degrés au-dessus de la période pré-industrielle. Ce scénario est encore devenu possible si nous faisons des efforts importants. Le scénario 2 RCP 2.8.5 a pour condition que l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre continue à un rythme similaire qu'entre 2022. Ce scénario conduirait à une augmentation des températures de 4,7 degrés au-dessus de la période pré-industrielle. Avec une telle augmentation, nombre de conséquences seraient à prévoir. Comme une hausse des niveaux de la mer de 80 cm, se débarrassant des villes comme Agon-Coutaville, des sécheresses critiques au niveau mondial et la quasi-extinction des plantes dans la plupart des régions du monde. L'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment par l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux, ainsi que pour les services sociaux nécessaires. Et dans ce scénario, ce droit ne serait physiquement pas accomplissable. »
Un grand changement dans l'industrie de la mode est survenu avec l'émergence de la fast fashion dans les années 1990. Comme son nom l'indique, la fast fashion consiste à produire rapidement de grandes quantités de vêtements en tendance à des prix bas. La production a lieu principalement dans les pays en développement comme l'Amérique centrale, l'Afrique de l'Est et l'Asie du Sud-Est. Dans ces régions, il existe de vastes zones avec des centaines d'usines textiles qui fabriquent des vêtements pour des marques occidentales bien connues telles que Zara, Shein, H&M, Primark et Temu. Ces usines sont surnommées sweatshops. Dans les sweatshops, des milliards de personnes travaillent dans des conditions extrêmement difficiles pour fabriquer les vêtements que nous achetons. Les travailleurs reçoivent des salaires très bas, travaillent de longues journées sans pause et leur environnement de travail est souvent dangereux et nocif pour leur santé. Beaucoup d'entre eux viennent de familles vivant dans une pauvreté extrême sans accès à l'éducation. Environ 80% des travailleurs sont des femmes. Et il est rapporté que dans certaines usines, des enfants de l'âge de 5 ou 6 ans sont également employés. La majorité des enfants travailleurs sont entre 10 et 14 ans dans des pays comme le Bangladesh, l'Inde, le Cambodge et le Pakistan, malgré le fait que l'âge minimum pour travailler dans ces pays soit généralement fixé à 14 ans ou 15 au Cambodge.
Mesdames et messieurs, les membres du jury, honorables juges, chers citoyens, aujourd'hui, je me tiens devant vous pour défendre une cause qui transcende les frontières et les cultures. La lutte contre l'exploitation des mineurs dans le monde du travail. Chaque année, des millions d'enfants, parfois dès l'âge de 5 ou 6 ans, sont contraints de travailler dans des conditions inhumaines, sacrifiant leur enfance, leur éducation et leur avenir. Cette réalité, bien qu'insoutenable, persiste dans de nombreux pays, alimentée par la pauvreté, l'ignorance, mais aussi par l'appât du gain de certaines entreprises. À l'échelle mondiale, l'Organisation internationale du travail, l'OIT, estime qu'il y a 160 millions d'enfants travailleurs, dont 79 effectuent des travaux dangereux. Ces chiffres alarmants soulignent une urgence qui exige une réponse collective et coordonnée.
Pour illustrer cette réalité, permettez-moi de citer quelques exemples marquants issus du cinéma et des documentaires. Ces œuvres ne sont pas seulement des témoignages poignants, mais aussi des outils de sensibilisation. Premièrement, on a Slumdog Millionaires. Réalisé par Danny Boyle, ce film, récompensé par 8 Oscars, met en lumière la dure réalité de nombreux enfants dans des bidonvilles en Inde. On y voit comment les enfants orphelins ou abandonnés sont exploités dans des conditions abjectes, notamment pour la mendicité organisée. Ce film, bien que fictif, s'inspire de faits réels. Deuxièmement, on a The Trust Cost. Ce documentaire explore l'impact de l'industrie de la fast fashion sur les travailleurs, y compris les enfants, dans des pays comme le Bangladesh ou l'Inde. Troisièmement, Invisible Children. Ce documentaire met en lumière l'utilisation des enfants soldats en forme extrême de l'exploitation. Bien qu'il se concentre sur le contexte des conflits armés en Afrique, il démontre à quel point les enfants peuvent être industrialisés dans les environnements hostiles. Quatrièmement, Children of Darkness. Ce documentaire, bien qu'ancien, reste une référence en matière de dénonciation des abus envers les enfants, notamment dans le cadre du travail forcé et de l'exploitation psychologique.
Ces récits bien que difficile à regarder, résonne avec la réalité. Ils illustrent une violation flagrante des droits des enfants. Droits pourtant protégés par des instruments juridiques et internationaux. Parmi eux, premièrement, il y a la Convention relative aux droits de l'enfant, la CIDE, adoptée par l'ONU en 1989, qui consacre le droit de tout enfant à être protégé contre l'exploitation économique. Il y a aussi les conventions numéro 138 et 182 de l'OIT, qui définissent l'âge minimum d'admission à l'emploi et visent à éliminer les pires formes de travail de l'enfant. En France, l'article...
Ouvrez les yeux. On vous ment. Connaissez-vous le canal du Panama ? J'imagine que oui. Dans vos histoires, on vous raconte que c'est un exploit. Un chef-d'œuvre d'ingénierie. Une prouesse humaine. Mais combien de morts derrière ce projet ? 22 000. 22 000 hommes envoyés à la mort. Parmi eux, une majorité étaient des Antillais. Des travailleurs venus des colonies françaises. Venus d'Haïti, de la Martinique et de la Guadeloupe. La France les envoyait là-bas, dans des conditions de travail inhumaines. On ne s'en parle jamais à l'école, ni à la télévision, ni dans les discours de ceux qui se prétendent défenseurs de la justice. Et pourquoi ? Parce que ça cacherait la belle histoire que l'on veut vous vendre. Aujourd'hui, la même tragédie, le même silence. Mais au Qatar, 6 500 hommes sacrifiés pour que vous puissiez regarder un match de foot dans un stade tout neuf, 6 500 ouvriers morts dans l'indifférence totale, écrasés par la chaleur chez l'exploitation, et vous ? Vous achetez vos billets, vous allumez votre télé, vous regardez les joueurs fouler la pelouse, mais posez-vous seulement la question. À quel prix ce spectacle existe-t-il ? C'est un crime organisé, un esclavage déguisé. Prenons Mohamed Soudjan Mia, cet homme. Ce père, âgé de 32 ans, a quitté sa famille du Bangladesh. Il voulait leur offrir une vie meilleure, mais qu'est-ce qu'il a trouvé au Qatar ? L'enfer. Il travaillait sous 50 degrés, sans peau, sans eau potable, et dormait dans des dortoirs infestés de cafards, à 15 dans une seule pièce, et lorsqu'il tombait malade, aucun soin, aucun médecin, et aucune aide. Un jour, son corps n'a plus tenu. Il est mort d'épuisement, seul et oublié. Et sur son certificat de décès est écrit « mort naturelle ». Ah, parce que maintenant, mourir écrasé par des conditions de travail inhumaines, c'est naturel. Non, c'est un crime, un meurtre, mais personne ne soit jugé, parce que ces hommes ne comptent pas aux yeux de ceux qui dirigent ce monde. 6 500 morts en silence, 6 500 vies volées, 6 500 cercueils envoyés des familles brisées, et personne pour leur rendre justice. Ces hommes venaient du Bangladesh, de l'Inde et du Népal. On leur avait promis un salaire décent, mais en arrivant, on leur confisque leur passeport. C'est un système qui porte un nom, la kafala, un mot qui cache une réalité simple, l'esclavage moderne.
Le sport, c'est un loisir, mais c'est aussi pour beaucoup un travail. Et dans ce domaine également, les discriminations vis-à-vis des femmes sont flagrantes. Pourtant, rappelons l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. Tous ont droit sans aucune discrimination à un salaire égal pour un travail égal. Alors, partons en Amérique ? Le salaire d'une joueuse de WNBA est 110 fois inférieur à celui d'un joueur de NBA. 110 fois inférieur. Pourtant, ils font le même travail. Pourtant, ils jouent la même durée sur le terrain. Megan Rapinoe, joueuse de football américaine et militante pour les droits des femmes, est devenue une figure centrale dans la lutte contre les inégalités salariales et de sponsoring dans le sport. En 2019, après avoir remporté la Coupe du monde féminine de la FIFA, elle a souligné que les joueuses de l'équipe nationale féminine, malgré leur succès et leur popularité, étaient beaucoup moins payées que leurs homologues masculins. Sachant que dans le classement FIFA, l'équipe nationale masculine est 16e et que l'équipe nationale féminine est 1ère. Sachant que l'équipe nationale masculine n'a jamais gagné de Coupe du Monde, contrairement à l'équipe nationale féminine qui, elle, en a gagné 4. Donc, elles sont plus méritantes que les hommes. Donc, elles méritent un meilleur salaire. D'ailleurs, si on vous dit Coupe du Monde, vous pensez à la compétition masculine ou féminine ? Vous pensez à des joueurs ou à des joueuses ? Savez-vous qu'environ 21% des athlètes femmes subissent des abus sexuels dans le cadre du sport pendant l'enfance ? 21% et de plus pendant l'enfance, c'est-à-dire entre la naissance et 10 ans, la peine des abus sexuels s'élève à 10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. Et seulement 6% des agresseurs sont condamnés. Mais il n'y a pas que les agressions sexuelles, il y a aussi les menaces. Missa Plaza, ancienne joueuse de football et psychologue dans le sport, s'est confiée. On ne gagne que 3 euros à la mi-temps. L'entraîneur est mécontent du score et finit par nous menacer de viol. Il nous regarde l'une après l'autre, nous pointe du doigt et nous dit « Vous voulez jouer au salope avec moi ?» Je vous baisine par une. Trouvez-vous cela normal qu'un entraîneur puisse dire ça à ses joueuses sans être inquiété? À aucun moment, il ne devrait pouvoir dire ça. La sexualisation des femmes dans le sport favorise ce genre de comportement. Une illustration est flagrante. La tenue de sport dans la compétition. Heureusement, aujourd'hui, plusieurs mesures ont été prises. Comme dans le volley, où les joueuses devaient porter un bikini pour les compétitions avec un bas de 7 cm maximum. Maintenant, et heureusement, elles peuvent jouer en short et en t-shirt. Ou encore les joueuses dans le ball, qui peuvent désormais porter des shorts. Mais attention, des shorts courts et serrés.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ici pour défendre les droits des femmes, défendre notre égalité, défendre notre respect et notre intégrité. Je m'appelle Mélanie et elle s'appelle Noémie. Nous sommes en première au lycée Lebrun de Coutances. On nous a donné comme défi de réaliser une plaidoirie sur un sujet qui nous révolte. Alors, nous avons très vite pensé aux droits des femmes qui est de plus en plus menacé depuis ces dernières années, dans les multiples pays qui nous entourent. Comme grand nombre de femmes, nous voulons nous révolter et obtenir plus qu'une simple promesse, car on espère un jour pouvoir être à égalité face aux hommes et à leur rang sacré. Nous ne voulons juste pas qu'une femme soit moquée ou jugée ou encore agressée, car elle est du sexe opposé. En effet, c'est notre devoir de faire bouger nos droits et notre liberté, comme toutes ces femmes importantes qui nous ont précédées et qui nous ont fait ainsi avancer. Car Simone Veil nous a permis d'avorter en toute légalité, car Simone de Beauvoir a réussi à faire ouvrir les yeux sur le thème des inégalités entre les sexes grâce à son ouvrage qui a jeté les bases du féminisme moderne. Car c'est Malala Yousafzai qui aurait pu en mourir. Elle a simplement voulu défendre le droit des filles à l'éducation.
Je pense qu'il serait trop long de faire la liste de toutes ces femmes, mais nous gardons dans notre esprit combien elles sont importantes et nous prendrons la relève dorénavant pour permettre aux autres générations de femmes et de filles un avenir plus sûr. Et nous vous demandons de faire de même, que vous soyez de sexe féminin ou masculin. Intéressons-nous à quelques pays dans lesquels les droits des femmes régressent pour des raisons différentes, car c'est aux États-Unis que l'avortement va être aboli et que les femmes ne pourront plus avorter. C'est en Afghanistan que leurs droits ne font que régresser. Elles n'ont même plus le droit de parler, ni même de lire leurs livres préférés. Et c'est en Irak que leurs décisions sont contrôlées. Et oui, elles n'ont même plus le droit, même plus le contrôle sur le mariage, le divorce, l'éducation, que ce soit pour elles ou pour leurs enfants. Elles ne sont pas libres de leurs déplacements, ni de leurs plaisirs. Leurs codes vestimentaires sont aussi contrôlés. En résumé, leurs libertés sont en danger.
Aux États-Unis, les femmes rencontrent encore plusieurs problématiques malgré des avancées significatives en matière de droits. Les problématiques touchent divers domaines, allant des droits reproductifs à l'égalité économique et sociale. Et oui, ne vous en étonnez pas, les femmes continuent de gagner moins que les hommes, avec un écart salarial moyen d'environ 18%. Et il est encore plus marqué pour les femmes afro-américaines et latines. Le racisme et les inégalités de sexe se cumulent. Et on ne parle même pas du fait qu'une femme sur quatre aux États-Unis est victime de violences physiques ou sexuelles. Et vous ne savez sûrement pas le pire, les femmes et les jeunes filles issues de milieux défavorisés ou de minorités se retrouvent souvent ciblées pour l'exploitation sexuelle. Vous imaginez, c'est affreux. Et pourquoi les femmes de couleur n'ont-elles pas les mêmes facilités pour accéder à des soins de qualité? Ne pensez surtout pas que tout ce blabla n'est que des mots rassemblés, car oui, les victimes pourraient se révéler et parler.
Dans le système judiciaire,
les jeunes de Coutances
sont membres d'une unité d'élite, appelée unité spéciale pour les crimes particulièrement monstrueux. Voici leurs histoires.